13e rue, Made of Sreer. À l'occasion de la diffusion en exclusivité de Law & Order True Crime, l'affaire Menendez sur 13e rue, découvrez le podcast en 4 épisodes. L'affaire Menendez, épisode 4, épilogue. Le 20 août 1989, Eric et Lyle Menendez tirent à moins de 2 mètres sur leurs parents, assoupis devant la télévision, à l'aide de fusils à canoncier. José Menendez, célèbre producteur de cinéma américain, ainsi que sa femme Kitty, ancienne reine de beauté de l'Illinois, tombent sous les balles, abattus par la rage et la colère de leurs deux fils. Après un procès fleuve, des centaines de témoignages et des millions de dollars dépensés, l'accusation n'est pas parvenue à démontrer qu'Eric et Lyle Menendez avaient agi par cupidité, qu'ils avaient tué leurs parents pour jouir de la fortune familiale qui s'élève à 14 millions de dollars. L'avocate des frères Menendez, la talentueuse Leslie Abramson, est parvenue à instiller le doute dans l'esprit des jurés, à convaincre qu'Eric et Lyle n'étaient pas des monstres, mais des victimes. Les victimes de parents pervers et pédophiles qui ont abusé d'eux durant des années. Face à ces deux visions diamétralement opposées, les deux jurys chargés de déterminer chacun la responsabilité de l'un des frères ont été incapables de trancher. Le procès a été annulé.
Au nom de Lyle et Eric, nous tenons à remercier les deux jurys pour leur dévouement et leur attention aux éléments de l'affaire.
Quelle est l'étape suivante ?
Leslie, pour vous, c'est une victoire ?
La victoire, ce serait qu'Eric et Lyle soient libérés. Mais je me félicite que nous ayons eu l'occasion de mettre en lumière le genre de maltraitance que les gens veulent ignorer. Certains refusent de croire que ça ait pu arriver dans une villa de Beverly Hills, mais c'est arrivé. Nous avons demandé de la compassion aux jurés pour les garçons qui ont subi cela, et ils en ont...
Excusez-moi, Jill...
Une victoire pour la défense, et bien sûr, une défaite cuisante pour l'accusation. Après cette débâcle, un grand ménage a lieu dans les rangs de la justice. Pamela Bozanic, la substitut du procureur qui a échoué à obtenir la tête des deux frères, est évincée. Pour piloter l'accusation à sa place, un homme de poigne est désigné. Le substitut, David Cohn. Quant au juge qui a dirigé les débats, le président Weisberg, il est lui aussi sur la sellette. D'autant que la presse se déchaîne sur ce magistrat, devenu la risée d'un système judiciaire incapable d'obtenir la condamnation de meurtriers qui ont pourtant avoué les faits. Dans les couloirs du tribunal, il se murmure que l'État de Californie devrait songer à limiter la casse et à sceller un accord avec la défense pour cesser enfin de dilapider l'argent du contribuable. Une perspective de négociation qui représente un espoir immense pour Eric et Lyle Menendez. Mais quelques jours plus tard, le couperet tombe.
Nous ne céderons rien. On ne joue pas avec la justice. Il y aura un second procès, Menendez. Le substitut du procureur, David Cohn, dirigera l'accusation. David ?
Merci. La défense a fait le procès de José et Kitty Menendez alors qu'en réalité, c'était eux les victimes. Cette fois-ci, nous ne laisserons personne l'oublier. Leslie Abramson a déclaré qu'elle attendait qu'on lui propose un accord.
Je tiens à lui annoncer que nous ne passerons aucun accord avec ses clients.
Monsieur Cohn, que pensez-vous du rôle du juge ?
Il n'y aura donc aucune négociation. Un second procès aura bel et bien lieu. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, chacune des parties doit assumer ses frais de justice. Experts, enquêteurs, avocats, tout cela a un coût. Et la famille Menendez n'a plus d'argent. Si Barry Levin, un ancien policier devenu avocat, a été commis d'office pour remplacer Jill Lansing à la défense de Lyle, Leslie Abramson, elle, ne pourra plus représenter Eric, ni se battre en réalité pour les deux frères comme elle l'a toujours fait. Pour sortir de cette impasse, Leslie Abramson, fidèle à sa réputation, trouve une solution peu banale. Elle fait un appel aux dons pour financer la défense d'Eric. Une initiative imitée aussitôt par le bureau du procureur qui, en riposte, lance son propre appel aux dons. Un vide-grenier est même organisé pour récolter des fonds en faveur de l'accusation. Une démarche hallucinante pour nous Français, mais aux États-Unis, rien ne choque. Tout est possible. Après moult tergiversations, la justice, qui n'en sort une fois encore pas tout à fait grandie, accepte de prendre en charge la moitié des honoraires de Leslie Abramson, faisant d'elle, selon ses propres mots, l'avocate de renom la moins chère de la planète. Les choses sérieuses vont enfin pouvoir reprendre. Avril 1995, cour de Van Nuys à Los Angeles. La première audience se déroule mal pour la défense, car le juge Weisberg, qui ne perd pas de vue sa réélection, se montre implacable avec la défense. Pour éviter le fiasco précédent, il décide qu'Eric et Lyle seront cette fois-ci jugés par un seul et même jury. Dans la foulée, Weisberg refuse de reporter le procès, alors même que Barry Levin, le nouvel avocat de Lyle, n'a pas eu le temps de prendre connaissance du dossier. Pire encore, tous les témoins de la défense susceptibles de confirmer les maltraitances endurées par les deux frères ne pourront témoigner que lorsque le chef d'accusation sera fixé et qu'il ne restera plus qu'à déterminer la peine. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de caméra dans la salle d'audience. Leslie Abramson et Barry Levin accusent le coup. Pour eux, ces décisions du juge Weisberg prouvent que les dés sont pipés. La justice souhaite démolir Eric et Lyle, et elle souhaite le faire sans caméra, et donc sans témoin. L'étau se resserre autour des frères Menendez. La pression est immense. Eric, le plus jeune, craque.
Cette fois, je m'en fous. J'en peux plus de pas savoir si je passerai 10 ans en tôle, ou toute ma vie, ou si on va m'exécuter. Je veux savoir pour pouvoir au moins vivre serein ce qui me reste à vivre.
Je comprends, Eric. On veut tous le savoir. Vous devez essayer de prendre un jour après l'autre.
On va s'en sortir. Je sais que tu peux tenir le coup. Mais n'oublie pas, maîtrise tes émotions.
Plus fragile que jamais, Eric trouve refuge dans la Bible. Lyle, lui, tue le temps en échangeant avec les nombreux anonymes qui lui écrivent des quatre coins du pays pour lui apporter leur soutien. Un maigre réconfort qui va se retourner contre lui. Martha Shelton, l'une des correspondantes de Lyle, se précipite un matin devant les caméras. Elle prétend détenir des enregistrements compromettants.
Lyle m'a dit, on a réussi à embobiner la moitié du jury, il ne nous reste plus qu'à embobiner l'autre moitié.
Leslie Abramson découvre ses déclarations en direct à la télévision et tombe des nues. Ces accusations peuvent mener les deux frères droit vers le couloir de la mort. La police saisit les enregistrements de Martha Shelton, qui s'avèrent ne contenir que des banalités. Il n'y a dans ces cassettes absolument rien de préjudiciable pour les deux frères. Martha Shelton a bluffé. Elle a fait tout ça pour avoir son quart d'heure de célébrité, pour mettre un peu de paillettes dans sa vie. Résultat, elle est arrêtée pour obstruction à la justice. Et ce n'est pas fini. Sitôt l'affaire Martha Shelton terminée, voilà qu'une autre femme vient occuper le devant de la scène. Norma Novelli, qui s'occupe des courriers et communications téléphoniques de Lyle au sein d'une association de détenus, a elle aussi la curieuse tendance à enregistrer tous leurs échanges. Secrètement, Norma nourrit l'espoir d'une relation intime avec Lyle. Alors le jour où elle apprend qu'il vient de se fiancer à un mannequin suédois qui répond au doux prénom d'Anna, sa colère explose. Norma Novelli décide à son tour de rendre public leurs échanges. Elle parle même d'écrire un livre pour enfoncer les deux frères. Le substitut David Cohn flaire la bonne affaire. Norma dispose de 2 ans et demi d'écoute, des heures et des heures d'enregistrement. Pour fragiliser la défense, il tente un coup de poker. Laissez croire que le contenu des cassettes est explosif avant même de les avoir écoutées. Le problème, c'est que la défense n'a pas accès à ces enregistrements. Leslie Abramson et Barry Levin n'ont donc aucun moyen de savoir si, en 2 ans et demi de conversation, Lyle n'a pas prononcé une phrase malheureuse qui, tirée de son contexte, pourrait bien lui être fatale. Et voilà que le juge Weisberg entre dans le jeu de l'accusation. Il impose un marché hallucinant aux deux avocats. S'ils veulent que ces cassettes ne soient pas utilisées pendant le procès, Lyle Menendez ne devra pas témoigner. Le bluff de l'accusation a fonctionné à merveille. La défense est coincée. Bien que ces cassettes ne contiennent en réalité rien d'extraordinaire, Leslie Abramson et Barry Levin, qui n'en savent rien, décident de jouer la prudence. Lyle ne témoignera donc pas face à la cour. Cette fois-ci, tout va reposer sur les épaules d'Eric, le plus frêle des deux frères. Et pour finir de peindre la toile d'un contexte définitivement hostile aux accusés, une semaine seulement avant que leur procès ne s'ouvre, O.J. Simpson, le célèbre joueur de football américain, est acquitté du meurtre de son ex-épouse et de son amant, alors même que toutes les preuves le désignent. Un verdict qui choque profondément et divise le pays. L'Amérique tout entière a le regard braqué sur la justice californienne qui n'a plus le droit à l'erreur. Voilà l'ambiance dans laquelle, le 11 octobre 1995, Eric et Lyle Menendez font de nouveau face à la cour et aux jurés. Eric est seul pour raconter l'horreur qu'a été son enfance et celle de son frère. Les viols, les humiliations, les menaces et la terreur.
Monsieur Menendez, après les années de maltraitance que vous nous décrivez depuis plusieurs semaines maintenant, diriez-vous que vous aviez de bonnes raisons de tuer vos parents ?
Sûrement pas.
Ressentiez-vous de la peur quand vous les avez tués ?
Oui.
Pourquoi leur avez-vous tiré dessus ?
Parce que je sentais qu'ils voulaient me tuer.
Pourquoi ne pas considérer votre acte comme justifié ?
Parce que c'était mes parents. Parce qu'ils n'étaient pas armés. J'en suis conscient maintenant. Nous avons commis une énorme erreur.
Une erreur ? Le substitut David Cohn s'empare aussitôt de ces mots. Il en profite pour contester la thèse de la légitime défense. N'est-ce pas là la démonstration parfaite qu'Eric et Lyle n'étaient pas en danger de mort imminent ? La défense s'écroule comme un château de cartes. C'est donc presque sans surprise que le verdict s'abat sur Eric et Lyle dans un silence de plomb.
Le jury à l'unanimité déclare Joseph Lyle Menendez coupable de meurtre au premier degré sur les personnes de José Menendez et de Marie-Louise Menendez en violation de la section 187A du Code pénal de l'État de Californie. Le jury à l'unanimité déclare Eric Galen Menendez coupable de meurtre au premier degré sur les personnes de José Menendez et Marie-Louise Menendez en violation de la section 187A du Code pénal de l'État de Californie.
Merci. Le jury peut retourner dans la salle de délibération. L'audience est levée, nous reprendrons dans une heure.
Reste maintenant à déterminer une peine contre Eric et Lyle. Leur seul espoir d'échapper à la peine de mort, c'est que les jurés se montrent sensibles aux témoignages de leurs proches, qui se succèdent à la barre, pour confirmer les maltraitances imposées par José et Kitty à leurs deux garçons. Témoignage inédit, Joan, la sœur de Kitty, est enfin prête à révéler une part sombre de son histoire, après des années de silence. Si Kitty Menendez a abusé de son propre fils, c'est qu'il y avait une explication.
Mon père a toujours été un homme violent. Chez nous, c'était le chaos. Et Kitty n'était qu'une enfant. Elle a subi des attouchements par un membre de la famille. Seigneur, ça a changé, Kitty. Je crois qu'ensuite, plus jamais, je ne l'ai vue à nouveau heureuse.
Une révélation bouleversante. Mais pas de quoi émouvoir David Cohn. Au contraire, le substitut du procureur va jusqu'à accuser les deux frères et leur famille d'être tous des menteurs. Pour lui, il n'y a jamais eu d'abus sexuel. Et Eric et Lyle n'avaient aucune autre raison de tuer leurs parents que l'argent.
Eric et Lyle Menendez méritent tous deux la peine de mort. Infligez-leur ce qu'ils méritent, et rien d'autre.
Des mots qui font froid dans le dos. Leslie Abramson assiste impuissante à la mise à mort de ses clients. D'autant qu'un banal incident d'audience lui vaut d'être privée de plaidoirie. Elle ne peut donc rien faire, ni rien dire pour sauver la vie d'Eric et Lyle. C'est à Barry Levin que revient cette lourde tâche. L'avocat exhorte les jurés à ne pas céder à l'esprit de vindicte, à ne pas être tentés de laver le sang de José et Kitty Menendez par celui de leurs enfants, avant d'être interrompus par une quinte de toux. Quelques minutes plus tard, Barry Levin se ressaisit et argue de son passé d'ancien flic et de militaire qui a combattu au Vietnam pour assurer aux jurés qu'il n'est pas un homme faible et que de leur côté, ils vont devoir être forts pour ne pas céder aux sirènes de la vengeance. Pitié, pitié, épargnez ces jeunes garçons. C'est une décision que vous n'aurez jamais à regretter. Les jurés vont-ils infliger à Eric et Lyle la peine de mort ? Le 17 avril 1996, la sentence est prononcée.
Le jury à l'unanimité déclare Eric Galen Menendez et Joseph Lyle Menendez coupables de meurtre au premier degré avec circonstances atténuantes et les condamne à la prison à vie sans possibilité de libération.
Ça va aller.
Mesdames et messieurs du jury, merci d'avoir servi la justice. La séance est levée.
La prison à vie. Une claque pour la défense.
On va déposer une nouvelle requête. On va faire appel. Le combat n'est pas terminé.
Si c'est terminé, Leslie, on sait ce qui nous attend. Et on l'accepte. Ce sera toujours mieux que la vie d'avant, à la maison. Ce sera toujours mieux que ça.
Les jurés n'ont vraisemblablement pas cru Eric et Lyle Menendez. Leur tante Martha est dévastée. Car elle sait que, si José Menendez a violé et martyrisé ses enfants, tout cela n'a pas eu lieu sans raison.
Quand José avait 5 ans, mon père partait en voyage d'affaires et ma mère se sentait souvent très seule. Elle faisait venir José dans son lit et elle lui demandait de lui faire des choses sexuelles. C'est pour cette raison que je n'ai pas douté quand j'ai su qu'il l'avait fait à ses enfants. C'est une maladie que ma mère lui a transmise.
José et Kitty Menendez n'ont donc fait que reproduire sur leur fils ce qu'ils avaient tous les deux subi enfant. L'humain transmet la misère à l'humain jusqu'à ce que quelqu'un rompe le cycle. Depuis cette affaire, Leslie Abramson s'est retirée de la vie d'avocate pour travailler dans un magasin de jouets. Il lui a fallu de nombreuses années avant de trouver la force de reprendre le chemin d'un tribunal. Quant à son confrère Barry Levin, la quinte de toux qui l'a interrompu durant sa plaidoirie signait les prémices d'une maladie rare. Il est mort 5 ans après le procès, en 2001. Toutes les requêtes d'Eric et Lyle Menendez ont été rejetées. Les deux frères exécutent leur peine de prison à vie dans 2 établissements différents. Ils ne se sont pas vus depuis 1996. Eric et Lyle n'ont même pas le droit de se parler au téléphone. Tout juste sont-ils autorisés à s'écrire. De simples mots couchés sur le papier qui permettent aux deux frères de rester proches, malgré les dizaines d'années et les milliers de kilomètres qui les séparent. En 2001, Lyle Menendez a divorcé de la belle et blonde Anna qu'il avait épousée par téléphone en 1996. 2 ans plus tard, Lyle a retrouvé l'amour auprès de Rebecca, une femme qui lui apporte beaucoup de paix et de joie dans les ténèbres de sa prison. Eric, lui, ne s'est marié qu'une fois, en 1999. Son épouse, Tammy, une veuve et mère de 2 enfants, s'est installée à Sacramento pour être plus proche de lui. En 2017, Lyle Menendez a accordé une interview depuis la prison d'État de Mule Creek, où il est enfermé depuis 28 ans. Il regrette toujours ce qu'il a fait et espère du fond du cœur qu'on ne le réduise pas éternellement à son horrible geste, à ces quelques secondes de sa vie où tout a basculé pour son frère et lui. Je prends chaque jour comme il vient. j'ai accepté le fait de ne plus chercher à comprendre ce qu'il s'était passé. Quant à la série qu'il aurait consacrée, Lyle l'a regardée depuis sa cellule. Il y voit une chance pour le public de comprendre leur histoire. Lyle Menendez reste persuadé que si son frère et lui étaient jugés aujourd'hui, l'issue du procès serait différente. Car depuis, la société a enfin pris conscience des ravages que produisent les violences parentales sur les enfants. Retrouvez Law & Order True Crime, l'affaire Menendez, dans votre rendez-vous Serial Thriller, chaque dimanche à 20h55, sur 13e rue.
13e rue, Made of Thrill.